OK, on va commencer notre sixième leçon dans notre série sur la mortification du péché. Ce soir, ce qu'on va regarder, c'est mortifier le péché, ce que c'est véritablement. Alors, dans le sermon précédent, on avait développé ce que ce n'est pas de mortifier le péché. On avait vu que c'était cinq choses que ce n'est pas. Ce n'est pas l'éradiquer, le tuer ou le déraciner complètement et définitivement. On avait vu ça la semaine dernière. La deuxième chose, que ce n'est pas la mortification, ce n'est pas dissimuler le péché. Par exemple, une personne qui aurait l'air à être bien mortifiée, mais ce serait uniquement dans ses formes extérieures et visibles. Alors, Dieu voit notre être intérieur, il voit nos péchés intérieurs, il voit notre corruption intérieure aussi. Alors, la dissimulation du péché, ce n'est pas non plus de la mortification. La troisième chose qu'on avait vu que ce n'était pas, ce n'est pas acquérir une nature tranquille, pondérée, réfléchie et tranquille. Certaines personnes peuvent avoir une facilité de caractère, ils vont garder toujours leur calme, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement mortifié certains péchés. La quatrième chose que ce n'était pas, c'est ce n'est pas détourner ou dévier le péché pour le remplacer par un autre. Alors, on a souvent cette tendance-là, les êtres humains, on va combattre un péché, puis d'un autre côté, on le remplace par un autre, et c'est pas de la mortification. La cinquième chose, on avait vu que ce n'était pas conquérir temporairement et occasionnellement un péché. Ce n'est pas non plus se repentir momentanément lorsque Dieu nous envoie un jugement ou un châtiment pour ensuite replonger dans son péché aussitôt. On avait vu des exemples de ça, par exemple, on avait parlé dans le livre des Juges, comment les Israélites, Dieu leur envoyait des jugements, ils étaient conquis par des nations environnantes, et lorsqu'ils souffraient beaucoup, là, ils se repentaient, ils imploraient la miséricorde de Dieu, Dieu leur accordait un juge, les libérait temporairement, mais la première nouvelle que tu savais, ils recommençaient. Alors, dès que Dieu accorde souvent une miséricorde ou une suspension de son jugement, le péché revient à la course. Alors, ça, c'est pas de la véritable mortification. Ce qu'on va regarder ce soir, c'est les différents aspects qui sont essentiels et obligatoires de la véritable mortification. Ça comprend trois éléments. Le premier, c'est l'affaiblissement continuel du péché. Continuel, incessant, ça veut dire qu'il ne faut pas t'arrêter. La deuxième chose, ça comprend la guerre incessante contre le péché. Et la troisième chose, ça comprend l'expérience de voguer de victoire en victoire sur le péché. Alors, quelqu'un qui fait authentiquement et véritablement de la mortification du péché va finir par avoir de grandes victoires sur le péché et il va aller de victoire en victoire. Alors, c'est un signe de véritable mortification lorsque tu as des victoires sur les péchés contre lesquels tu luttes et que tu veux mortifier. Alors, on va examiner plus en détail le premier point. Donc, l'affaiblissement continuel du péché. Chaque convoitise pécheresse trouve sa source dans notre cœur corrompu et dépravé. C'est l'habitude ou la disposition de notre vieille nature qui est inclinée continuellement vers le mal. Par exemple, dans Genèse 6, verset 5, le Seigneur dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Alors, le Seigneur nous rappelle que notre vieille nature est de façon naturelle, incliné vers le mal en tout temps et uniquement vers ça. Alors, s'il en avait l'occasion, le vieil homme poursuivrait la satisfaction continuelle d'un ou de plusieurs désirs pécheurs dans ses différentes formes ou variétés. Chaque péché crie et commande pour obtenir son actualisation. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je donnais l'exemple la semaine dernière d'une personne que j'ai connue qui était pauvre, puis il avait des souris dans sa maison, puis lui, il trouvait ça, il me voit que je jouais la souris, puis moi, je suis pas habitué à vivre dans un endroit où il y a des souris. Puis lui, il nourrissait. Il trouvait ça drôle, il riait. Il prenait des petits morceaux de fromage, puis il garochait ça à la souris. Moi, je vois là-dedans une image que qu'est-ce qu'on fait parfois avec notre propre, avec nos propres péchés. Plutôt que de la combattre et essayer de l'évacuer ou de l'éliminer, on nourrit notre propre vermine. Je crois qu'il y a un aspect spirituel là-dedans, une comparaison qu'on peut faire avec le monde spirituel. Alors, les convoitises pécheresses, ça agit continuellement et ça réclame leur dû, mais avec violence et impétuosité. Ils nous font ce que les Écritures appellent, ils nous font la guerre. 1 Pierre 2,11 « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Romains 7,23 « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Céder à quelque péché que ce soit, c'est assombrir notre esprit, c'est affaiblir nos convictions, c'est détrôner la raison, c'est interrompre toute puissance et toute influence qui pourrait freiner son actualisation. C'est arroser le feu avec un liquide hautement inflammable. Je trouvais l'image très belle parce que, quand tu donnes à un péché la chance de s'actualiser, c'est un peu comme si l'âme du pécheur corrompu, c'est comme si tu y mettais du gaz dessus. Pouf! Ça donne le goût d'aller encore plus loin et d'aller plus haut. Alors, si je trouvais l'image très forte, alors c'est vraiment arroser le feu avec un liquide hautement inflammable. Mortifier authentiquement le péché, c'est de l'affaiblir de façon constante et habituelle, de manière à le priver de toute force. L'affaiblir, c'est de réduire énormément sa violence d'attraction, sa fréquence de manifestation, son ardeur et sa fougue, sa montée dans l'âme, son habileté à concevoir, provoquer, amorcer et troubler. Jacques 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Notre nature corrompue cherche à satisfaire toutes les formes possibles de péché. Cependant, nous savons tous que certains péchés s'expriment chez une personne ou une autre avec une force inégale. La raison de ceci est que lorsque l'âme a cédé fréquemment à une forme particulière de péché, celui-ci trouve plus facilement son éclosion chez cette même personne. Satan sait comment tenter et faire croître la puissance de ce péché singulier en multipliant les tentations. C'est ce qui explique que certains sont plus colériques, d'autres plus envieux, d'autres plus paresseux, d'autres plus orgueilleux, d'autres plus gourmands, d'autres plus avaricieux, d'autres plus débauchés et d'autres plus dominés par les péchés sexuels ou autres. On sait tous par expérience dans nos propres vies, expérience aussi dans l'observation de la vie des pécheurs qu'on connaît, que les hommes sont souvent dominés par un ou plusieurs péchés, et ces péchés-là ont plus d'emprise chez eux que chez d'autres. Et ce qui explique, c'est la pratique constante. Moi, je compare ça, une fois j'en parlais avec Rénal, je compare ça comme quand on était jeune, on voulait se faire des raccourcis dans des champs où il y avait de l'herbe. Puis à force de piler sur l'herbe, ça finissait qu'il n'y avait plus d'herbe, ça créait comme un genre de petit sillon, un petit chemin, un petit sentier. Mais je pense que le péché, C'est la même chose. À force de pratiquer un péché, le sillon s'installe, le chemin s'installe, et on a beaucoup plus de difficultés à le vaincre, et Satan a beaucoup plus de facilité aussi à le faire monter en nous et à nous faire chuter. Alors, pourquoi la mortification du péché? C'est justement parce que, à cause que certains péchés sont plus éclore plus facilement dans nos vies que d'autres. Alors, c'est vraiment avec eux que l'on se doit d'adresser la guerre. L'âme qui cède régulièrement à une forme particulière de péché ouvre la porte à ce péché et lui permet d'accroître sa vigueur, sa puissance, sa violence, sa rage et sa domination sur elle. Alors, plus on laisse un péché habituel s'installer et qu'on le laisse s'extérioriser, qu'on le laisse actualiser, plus il devient fort et plus il nous domine, et plus on cède facilement, et plus le malin a de la facilité à nous le faire tomber ou à nous tenter. Alors, certains péchés sont plus facilement discernables que d'autres. Par exemple, Paul explique une différence entre le péché de nature sexuelle et les autres formes de péché. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, Paul nous dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Alors, l'auteur Owen fait la distinction de ça, parce que ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a des péchés qui sont discernables, qu'on voit plus, et qu'on est plus au courant chez d'autres personnes que d'autres. Mais il dit « Fais attention ». Parce qu'il y a des péchés qui sont aussi graves aux yeux de Dieu, mais qu'eux ne sont pas visibles aux yeux des autres. Et il dit, trompe-toi pas là. La mortification, c'est pas juste voir ceux des autres et dire, ah, cette personne-là est pognée avec tel péché. Pense au tien. Peut-être que tu ne discernes même pas qui, aux yeux de Dieu, sont aussi graves que le péché de l'autre que tu discernes. Alors, par exemple, lui, il utilisait le péché de mondanité. John Owen, il dit, le péché de mondanité est plus difficilement discernable par le croyant lui-même qui le pratique, et aussi par les autres croyants qui peuvent le pratiquer également et être aveuglés sur leur état. Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas un péché dans ta vie que le péché n'est pas là. C'est ça qui est important à saisir. 1 Jean 2, versets 15 et 16, le Seigneur nous avertit bien solennellement, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Il peut donc arriver que souvent la personne qui lutte avec une forme d'immoralité, comme la convoitise sexuelle, soit perçue par les autres comme étant moins mortifiée que les autres. Cependant, la mondanité, quoique moins facilement discernable par les autres, ne rend pas la mondanité moins grave. Encore faut-il que les croyants sachent avec précision ce que c'est que d'être mondain. Tu sais, quand on lit le verset, je pense qu'il n'y a pas aucun chrétien qui va venir dire que le verset 16 n'est pas vrai, là. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Comme l'auteur que j'utilise dit, encore faut-il que les croyants sachent avec précision ce que c'est que d'être mondain. La signification de ces choses-là. Parce que bien souvent, on les lit, on est bien d'accord, puis on est drette dans le péché, puis on ne s'en rend même pas compte. Mortifier le péché, c'est donc l'affaiblir de manière à ce qu'il n'incite plus avec la même force et avec la même intensité. C'est donc faire en sorte à ce qu'il ne provoque plus le même tumulte dans l'âme. C'est aussi le priver de sa vigueur, de sa promptitude, de sa capacité à nous agiter et à nous troubler. Quels sont les versets utilisés par Owen pour nous donner le secret de la signification de ce que c'est que de mortifier le péché? Il en utilise deux en particulier, Galates 5, 24 et 2 Corinthiens 4, 16. On va commencer par Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on se donne la peine de s'arrêter à la signification de l'expression « crucifier la chair », si on prend l'exemple de la crucifixion de Christ, quand on est crucifié, qu'est-ce qui arrive? C'est vider le corps de son sang, de sa puissance, de sa vigueur. Et lui, c'est de faire de cette activité une habitude quotidienne. Alors, quand le péché est crucifié, la semaine dernière, j'utilisais l'expression « si je me bats avec un homme qui fait 2 semaines qu'il n'a pas mangé, il est plus faible que moi, je peux facilement le battre ». Dans le fond, l'illustration que j'utilisais, c'est vraiment l'idée plutôt de la crucifixion. Quand tu es crucifié, non seulement tu perds ton sang, tu perds tes forces, tu perds toute capacité, t'es cloué. Si un homme est vrai, véritablement cloué sur une véritable croix de bois, il ne peut pas faire quoi que ce soit, il est cloué. Alors, c'est vraiment l'image qu'il utilise pour parler du péché. Et il utilise aussi le 2 Corinthiens 4, 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, Owen compare la mortification du péché chez un croyant à la crucifixion d'un homme sur une croix. De la même manière que cette crucifixion provoquera d'abord, chez celui qui est crucifié, d'abord une lutte, une volonté de libération de son état, une lutte et un appel urgent, criant et incessant à se voir détaché de la part de la chair. Aussi, le péché luttera avec une grande violence jusqu'à ce qu'il soit vidé de son sang, entre guillemets, et que toute sa force soit dissipée. Alors, je trouve ça intéressant comme image de voir que, de la même manière qu'une personne qui serait crucifiée au début, il crie, il voudrait, c'est comme là, tu prends l'image du péché, c'est comme le péché, lorsque tu le crucifies, lorsque tu le mortifies, lui aussi, il a cette tendance à faire comme l'homme lorsqu'il est véritablement crucifié sur une croix. Il veut se détacher, il hurle, il crie, il essaye tous les moyens pour essayer d'obtenir sa libération. Bien, justement, faut pas faire cette erreur-là. Faut le laisser là. Romains 6, versets 5 et 6. Je me souviens quand j'ai étudié l'Épître aux Romains, il y a un auteur qui disait que quelqu'un qui comprend vraiment Romains 6, 6, il a vraiment fait un grand pas dans sa vie spirituelle. Et en effet, ça nous dit dans Romains 6, versets 5 et 6, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieille nature, il faut prendre conscience qu'elle a été crucifiée en même temps à l'intérieur de Christ. Elle a été crucifiée afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, il va développer cette idée-là, puis il nous le dit dans la leçon 6, qu'il va développer beaucoup cette idée-là dans les prochaines leçons. Et c'est important qu'il va probablement nous donner plus de détails comment le faire concrètement. Quel est le but de la crucifixion de notre nature pécheresse? C'est que nous ne soyons plus esclaves du péché pour en satisfaire les convoitises, que nous ne soyons plus forcés d'obéir à ses moindres désirs. Cette délivrance du péché s'applique non seulement au péché charnel et sensuel, mais aussi aux convoitises, comme on a vu tout à l'heure dans 1 Jean, de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie, et aussi à l'opposition qui existe entre nous et Dieu en vertu de notre nature corrompue et dépravée qui domine notre esprit et notre volonté. C'est un aspect important aussi, ça, Parfois, on est porté à penser juste à se débarrasser des péchés charnels et sensuels, à se débarrasser des convoitises de la chair, des yeux, de l'orgueil de la vie, qui serait énorme. Mais la mortification du péché nous amène aussi à briser l'opposition qui existe entre nous et Dieu en vertu de notre nature corrompue et dépravée qui domine notre esprit et notre volonté. Parfois, certaines choses qu'on peut avoir de la difficulté à faire viennent de notre chair et elles nous dominent et l'opposition, qu'on ne veut pas nécessairement nommer comme ça, mais qui est vraiment là pareil. Alors, il dit que par la mortification du péché, toutes les formes de péché, charnel, sensuel, de la chair, des yeux, de l'orgueil de la vie, et l'opposition qui existe encore en nous, parce que notre vieille nature est là encore, cette opposition-là à Dieu. Alors, le péché qui nous incite au mal et qui entrave de faire ce qui est bien sera ainsi crucifié et considérablement affaibli à sa source même et à sa racine. C'était la dernière fois que je la trouve importante parce qu'il dit le péché qui nous incite au mal, ça c'est un aspect. L'autre aspect qui nous entrave de faire ce qui est bien. Donc, il n'y a pas seulement le péché qui s'actualise, il y a aussi le bien que Dieu nous commande de faire et notre opposition à Dieu est toujours là pour nous empêcher de réaliser l'autre aspect qu'on appelle les péchés d'omission qui ne sont pas moins graves que les péchés de commission. N'oublions pas ça. Le deuxième point qu'on va regarder, donc, il nous dit que le premier point, c'était d'affaiblir continuellement le péché. Le deuxième point, c'est que il faut être conscient que c'est le travail incessant, constant de toute une vie. Tant qu'on va être sur la terre, notre vieille chair va être là et il va falloir lui faire la guerre sans arrêter parce que si on arrête, elle va prendre le dessus, elle va regagner le terrain qu'elle a perdu assez rapidement. Alors, il faut vraiment lui faire la guerre continuellement. Lorsque le péché est fort et vigoureux dans l'âme du croyant, l'âme éprouve de grandes souffrances et de grandes difficultés à combattre. Prenons l'exemple de David dans le psaume 50, verset 12. Après qu'il a eu son vrai dans le péché, il dit « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Voyez-vous, quand tu te laisses dominer par le péché tranquillement, il dit, il y en a tellement, là, les châtiments de ses iniquités l'atteignent, il dit, ils sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Je ne sais pas comment il est organisé au point de vue cheveux, David. Mais quand même, s'il en avait beaucoup, ça veut dire que c'est quand même une image qu'il utilise, mais il dit que les châtiments de ses iniquités sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Et la dernière chose, la plus importante, c'est que ça nous montre l'effet d'avoir laissé un péché dominer ta vie pendant un certain temps. Et mon courage m'abandonne. Quand quelqu'un n'a pas de courage, il va-tu aller se battre contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit? Quand tu files pas courageux, tu fais juste tenir dans ta chambre, fermer la porte, dire « J'espère que personne n'est au courant de ce que je suis en train de faire. Je suis un lâche, je n'ose pas me battre. » Mais tu peux pas te battre, tu n'as pas de force. Parce que le péché t'a enlevé ta force. Alors, quand on parle de guerre, c'est la raison pour laquelle il faut faire la guerre. La lutte constante et quotidienne contre le péché comprend plusieurs exigences. Là, il y en a trois. La première, c'est qu'il dit que si tu veux faire la guerre avec ta nature pécheresse, la première chose qu'il faut que tu connaisses, c'est la profondeur de ta corruption. 1 Roi 8:38. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étendre les mains vers cette maison. Reconnaître la plaie de notre cœur, ça on peut le demander à Dieu de nous faire connaître l'étendue, la profondeur, les différentes formes de manifestation de notre corruption. Cette reconnaissance et cet acquiescement de la profondeur de notre nature corrompue est essentiel. Nous devons connaître la nature de notre ennemi, sa force, sa dépravation inimaginable et sa subtilité. Cette vieille nature continue de nous habiter. Des dangers mortels nous guettent constamment. La nature pécheresse reçoit mal les avertissements, reçoit mal les conseils, reçoit mal les exhortations. N'est-ce pas? Si vous vous êtes déjà fait exhorter dans votre vie, pour quelque raison que ce soit, dans une chose spirituelle, je ne sais pas si vous avez remarqué comment l'âme réagit. En dedans de nous-mêmes, parfois, on fait semblant que ça ne nous fait rien, là. Mais dans le fond, on n'aime pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas ça? On devrait aimer ça. On devrait aimer ça. Même la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que celui qui reprend son ami continuellement finit par être plus aimé que celui qui finit par cacher les fautes de son ami. Mais c'est sur le long terme que tu vas l'aimer. Mais sur le coup, là, quand tu reçois une exhortation, on dirait qu'on n'aime pas ça. Là. Alors, 2 Chroniques, verset 16, chapitre 16, verset 10. Voyez-vous, on a l'exemple d'un roi ici qui s'est fait reprendre par un prophète. Voyez la manière qu'il a réagi. Asa, qui était le roi, Asa fut irrité contre le croyant, contre le voyant, qui était le prophète. Et il le fit mettre en prison. Voyez-vous comment ça a réagi un pécheur? Tu te fais reprendre et dis, pas à toi à faire ça. Qu'est-ce que c'est ça, ta peur-là? C'est moi qui le roi. Fais mettre en prison. Imaginez-vous, c'est... Mais ça donne une idée comment on est, là. On n'est pas différent d'Asa, là. Alors, Asa fut irrité contre le voyant. Il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Voyez-vous, le péché entraîne à d'autres péchés. Non seulement il ne s'est pas contenté de le faire mettre en prison, puis d'y faire du trouble, mais il dit, vu que je suis en colère, il faut que je la passe contre quelqu'un, puis il a opprimé du monde du peuple en même temps. Voyez-vous, c'est pas très flatteur sur la chair, ça, sur notre vieille nature. Plus nous connaissons la profondeur de notre vieille nature et son irréversible corruption, plus nous comprendrons la nécessité de la guerre et de la lutte constante et quotidienne contre elle. Deuxième chose que ça comprend, faire la guerre et la lutte constante, c'est se familiariser avec notre ennemi. Prenez n'importe quelle nation qui sont en guerre l'une contre l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'espionnent. Ils envoient des ennemis l'autre bord. Ils achètent des gens qui sont au courant de leurs affaires. Ils étudient le caractère des généraux. Ils étudient le caractère des officiers. Ils étudient leurs armes. Ils étudient tout ce qu'ils peuvent connaître sur l'ennemi, là. Ils vont l'apprendre. Nous, c'est pas différent. On est aussi en guerre et il faut absolument apprendre comment notre ennemi travaille, c'est quoi ses tactiques, c'est quoi ses séductions, c'est quoi ses armes, c'est quoi ses approches, etc. Le croyant doit faire des efforts et travailler à connaître les voies, V-O-I-E-S, là, les artifices, les méthodes, les forces et les occasions utilisé par l'ennemi dans sa guerre et son combat contre nous. Les hommes agissent de cette façon dans les véritables guerres entre pays. Aussi, faut-il ajuster nos comportements pour savoir tenir compte de comment l'ennemi obtient des victoires contre nous et ainsi nous ajuster à éviter ce qui nous fait chuter. Donnez juste un exemple. Quand quelqu'un apprend à se connaître puis qu'il se rend compte que lorsqu'il est très fatigué, il est susceptible de faire des chutes ou des bêtises ou des colères ou de quoi que ce soit. Ça, c'est un exemple. On pourrait les multiplier. Ben, il faut que, lorsqu'il voit qu'il est dans une période où il est fatigué, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il prenne conscience que c'est là que l'ennemi va... Ah! Je le connais, lui. Quand il est fatigué, là, il va arriver, puis il va attaquer. Puis des fois, tu le vois pour venir pendant tout. Puis là, ça dégringole en péché extrême. Mais plus on va connaître, quand on parle, ces occasions, dans nos vies, si on étudie en détail, toutes les fois qu'on a chuté, on se rendra compte qu'il y a certains endroits, certaines occasions, certains temps de la journée, par exemple, Ève, Satan ne l'a pas attaqué pendant qu'elle était avec son mari, il l'a attaqué quand elle était seule. Ah oui, oui, il étudie et il attaque en fonction des faiblesses. Et il connaît nos faiblesses, faites-vous-en pas. Et il les utilise aussi. Alors, plus on va connaître comment il travaille, plus on va avoir de facilité à utiliser des moyens pour le combattre. Dans le psaume 51, verset 3, ça dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Alors, en analysant parfois nos vies passées et comment Satan nous a emmenés à chuter des fois dans des péchés importants, on apprend comment il a travaillé. Et là, si on a véritablement appris comment il a travaillé, ça nous donne la chance de combattre avec plus d'efficacité. Plus nous connaîtrons la subtilité des méthodes de l'ennemi, ses stratagèmes, ses forces, ses couleurs, ses plaidoyers, ses raisonnements, ses tromperies, plus facilement nous pourrons répondre par la grâce de Dieu. C'est comme si on lui disait « Je connais tes intentions et ce que tu vises, et là on est capable de le vaincre. » On le voit venir, on demande. Puis là on lui dit « Je connais tes intentions et ce que tu vises, et par la grâce de Dieu, je vais te vaincre. » Donc, la deuxième chose, c'est se familiariser avec notre ennemi. Et la troisième chose, c'est se rappeler que le combat ne peut pas cesser. Autrement dit, combattre sans cesse et quotidiennement. Des fois, on pourrait se dire, mais oui, mais là, ça fait longtemps, ça fait des années que je... Non, arrête pas. Faut pas t'arrêter. Nous ne devons jamais commettre l'erreur de croire qu'à cause que nous avons obtenu la victoire sur un ou des péchés, nous pouvons baisser nos gardes et cesser la guerre et le combat. Nous devons, au contraire, continuer avec plus d'intensité et de régularité, lui infliger de nouvelles blessures, de nouveaux coups chaque jour. Parce que je vous dis que la vieille nature, elle a la couenne dure. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il nous faut donc garder le péché constamment sous l'épée et le faire mourir. Il faut se souvenir qu'on a une épée dans les mains, puis il faut se battre, puis il faut toujours l'affaiblir continuellement sans arrêt. Troisième point, il nous dit que le troisième élément qui constitue une véritable mortification, c'est nous devons voguer de victoire en victoire. La fréquence des succès dans la guerre et la lutte contre le péché est une preuve de l'authenticité de la mortification. Ça, c'est une chose importante. Que dans mon cas, moi, c'est une chose importante à réaliser. C'est que si tu as des victoires, c'est signe que tu fais de la mortification. Si tu n'as pas de victoire, c'est signe que tu ne te bats pas fort. Alors, les convoitises pécheresses sont continuellement affaiblies dans leur source et dans leurs racines. Elles se manifestent moins souvent et moins intensément. Ça, je parle quand tu l'as fait, la guerre. Ou ainsi, l'âme garde sa communion avec Dieu, trouve la force d'accomplir ses devoirs envers Dieu, garde sa paix et augmente sensiblement la vigueur de sa vie spirituelle. Voyez-vous les choses que la victoire du péché, de quoi ça nous prive? Ça nous prive de notre communion avec Dieu, ça la brise. Ça empêche d'accomplir les devoirs qu'on a envers Dieu. Parce que la chair, le monde, Satan vont toujours conjuguer les efforts pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut. Autre chose, c'est que ça te fait perdre ta paix. On l'a vu avec des exemples dans les livres des psaumes avec David lorsqu'il a eu sa chute avec Bathsheba. Et la dernière chose que ça fait, c'est que si tu combats véritablement, la vigueur de ta vie spirituelle, les joies de ta vie spirituelle vont être plus intenses, plus nombreuses, plus régulières. Et là, il donne des exemples. Hein, il dit « Ainsi, l'orgueil est remplacé par la croissance de l'humilité. » La passion est remplacée par la patience. L'impureté par la pureté. L'amour du monde par l'amour de Dieu et des choses célestes et ainsi de suite. On pourrait allonger la liste, là. Autrement dit, toute forme de péché qui est combattue finit par nous donner exactement le contraire. dans le sens divin. Tout l'être cherche à se soumettre à Dieu et à sa loi. Owen affirme sans hésitation que tout croyant ayant amené la mortification au degré déjà mentionné expérimentera une vie remplie de joie, au pluriel, et de paix tous les jours de sa vie terrestre. Voyez-vous, c'est possible. Puis il l'affirme sans aucun... Il dit, si tu fais ce qu'on te dit de faire, puis tu le fais constamment, régulièrement, tu vas finir par avoir des victoires, et tu vas connaître une vie victorieuse, vigoureuse, vie spirituelle, qui va être remplie de joie et de paix. Moi, j'avoue que ça fait 33 ans que je suis chrétien, puis des moments de paix, de joie profonde, de sentir que je suis au-dessus de... Je n'ai pas connu si souvent que ça. C'est à ma honte, là, je vais le dire, ma honte. Mais je dois dire aussi, à ma défense, que j'en ai pas vu beaucoup qui étaient dans cet état-là non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne fait pas la mortification du péché. Parce qu'on ne voit pas les chrétiens pleins de joie, avec une vie spirituelle forte et vigoureuse, ayant une communion avec Dieu, obéissant à Dieu dans chacun des choses qu'il nous demande, ayant de moins en moins de péchés d'omission dans nos vies. Ben, je veux dire, si on s'en rend compte, comment ça ferait 33 ans, c'est pas grave, jamais trop tard. Alors, voguer de victoire en victoire dans la guerre et la lutte contre le péché est la preuve la plus évidente de l'authentique et véritable mortification biblique. Et là, il finit par ça, il dit. Et moi, je trouve ça fort. Là. Si tu vogues de victoire en victoire sur toutes sortes de formes de péchés que tu as identifiées dans ta vie et que tu as décidé, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de faire, tu vas voguer de victoire en victoire. Puis il dit ça, c'est la preuve que tu mortifies ton péché. Puis aussi, dans une leçon précédente que je me souviens, qu'il dit, la mortification du péché, ça fait partie de la sanctification. S'il n'y a pas de mortification, la sanctification fait pitié. Puis le Seigneur a dit que s'il n'y a pas de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est des avertissements pour prendre au sérieux. Alors, je vois au moins trois applications dans le texte d'aujourd'hui. La première, l'affaiblissement continuel du péché, sous quelque forme que ce soit, est-il notre préoccupation constante et notre pratique quotidienne? C'est à nous à se questionner, c'est à nous à répondre. La deuxième, sommes-nous en guerre et en lutte constante contre le péché? Connaissons-nous la profondeur de notre corruption? Connaissons-nous les méthodes de l'ennemi? Et sommes-nous réellement engagés dans une guerre à finir avec le péché? Aussi, c'est à nous à répondre. Mais moi, je dis que si on se rend compte qu'on a des problèmes dans nos vies face à ces choses-là, on se rend compte qu'on ne connaît pas notre ennemi tant que ça, puis... Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, si ce n'est que d'aller au trône de la grâce? Le Seigneur, il dit d'aller devant le trône de la grâce pour lui demander, lui faire part de nos besoins. Et si on s'en rend compte, ça en est-tu un besoin ou ça n'en est pas un? Alors, il faut lui demander à lui. Il n'y a rien que lui est capable de nous donner, de le faire. Troisième application, expérimentons-nous des victoires fréquentes et les conséquences de ces victoires? La communion et l'intimité avec Dieu, les joies et la paix de l'âme, et une vie spirituelle victorieuse, vigoureuse, fructueuse et puissante. Est-ce qu'on expérimente ça quotidiennement, mensuellement, hebdomadairement, annuellement? Alors, implorons le Seigneur de nous accorder toutes ces grâces pour obtenir que nous réalisions ces choses.